Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les nouvelles formes de la violence. Nouvelles formes, nouvelles logiques, moins visibles mais tout aussi destructrices, comme il l'explique dans son nouvel essai « Le déchaînement du monde à la découverte ». Engagé aussi dans les mouvements actuels, contre la sélection à l'université, contre les réformes Macron, l'historien des idées François Cusset est notre invité à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, ils ont tous deux posé leur valise à la Nouvelle-Orléans, au lieu de pèlerinage pour les amateurs de jazz. 5 ans après, Music is my home, album étape sur les terres métissées du Deep South américain, le saxophoniste Raphaël Imbert revient avec Music is my hope. Et le chanteur et compositeur Hugh Coltman, notre deuxième invité, poursuit dans sa nouvelle veine jazz avec Who's Happy. Ils sont tous deux avec nous jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il y a de l'espoir et de la joie qui vont résonner avec vous deux dans ce studio jusqu'à 12h30. On fête l'arrivée du train du printemps, pas du train-pan. Bonjour Raphaël Imbert.
Des trains aussi.
Bonjour. Enfin, quand ils avancent. Vous êtes saxophoniste, compositeur et arrangeur. À la pratique, vous ajoutez depuis quelques années la théorie. Auteur de Jazz Suprême aux éditions de L'Éclat, fondateur aussi de la compagnie Nine Spirit. Votre nouvel album Music is my hope vient de sortir. Vous serez en tournée jusqu'au 27 juillet. À vos côtés, Hugh Coltman, bonjour.
Bonjour.
Du blues rock avec votre groupe The Hawks au folk pop en solo, 3 ans seulement après Shadows, Songs of Nat King Cole, vous vous affirmez en nouvelle voix du jazz avec Who's Happy, un album 100% voodoo réalisé avec le guitariste Freddy Quella.
But I just can't sleep. Is it your voodoo again? Is it your voodoo? And I can't get enough.
Si on ouvre les micros, qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez en chœur avec vous-même, Hugh Coltman? On vous écoute.
Ah, vous voulez que je chante avec moi-même?
En duo avec vous-même.
C'est un peu tôt. J'ai pas encore eu mon petit déjeuner.
Amenez-lui son petit déjeuner.
Donc je vais peut-être manger le micro plutôt.
Sur France Culture. Hugh Coltman, It's Your Voodoo Working, une reprise de Charles Sheffield, musicien de Louisiane, moins connu que son homonyme mathématicien. Chanson écrite et enregistrée en 1961. Quand est-elle sortie du manche-disque, cette chanson? Et quand vous l'avez entendue pour la première fois, quel écho?
Manche-disque à Romainville,
À Romainville, je précise. C'est le nom d'un bar où vous avez entendu cette chanson pour la première fois. Quel écho a-t-elle trouvé en vous, cette chanson?
J'étais en train de travailler sur la composition du disque, ce qui n'était pas chose facile au début, parce que avec Shadows, j'avais travaillé sur le répertoire de quelqu'un d'autre. Ça faisait peut-être 4-5 ans que j'avais pas pris ma guitare et composé. Et puis après, comme le disque de Shadows de Nat King Cole, c'était plutôt bien reçu, on a plutôt beaucoup joué avec, tous les partenaires autour, ils étaient « Oh ben vous allez pas trop, vous vous éloignez, hein, faites pas de rock, restez en donne dans le jazz, etc. etc. » J'avais beaucoup des avis autour de moi, ce qu'ils pensaient que je devrais faire. Et donc, il y a un moment, j'étais un peu coincé de trouver le voix de cet album. Et c'était vraiment dans le moment où je nageais un peu. Et puis, j'entends ce morceau dans le bar à côté de chez moi, le manche-disque. Et ça m'a sauté aux yeux. C'est l'origine, la version d'origine, pardon, elle a 1 minute 46 secondes. C'est une efficacité fabuleuse. Et je savais pas d'ailleurs que c'était qu'il venait de la Louisiane, Charles Sheffield. Je l'ai juste fait le morceau comme ça. C'était un des musiciens, quand on était enregistré là-bas, qui m'avait dit « Ah, je crois qu'il vient de Baton Rouge d'ailleurs. »
Et vous, quand vous l'entendez, Raphaël Imbert, cette chanson, elle vous parle ?
Bah, disons que ça me
rajoute. J'espère.
Ah oui, de toute façon. Puis en plus, je traverse l'Atlantique directement. Enfin, ça y est, je retrouve les saveurs, les parfums, tout ça. J'entends les musiciens avec qui Hugues a enregistré. Ça y est, je me sens à la maison, quoi, vraiment.
Vous êtes allé un peu plus tard que Raphaël Imbert à la Nouvelle-Orléans, Hugh Coltman. Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas ? Qu'est-ce qui vous a frappé l'œil, l'oreille, le nez aussi, peut-être ?
Bah, l'œil d'abord. D'abord parce qu'on arrive. Et cette ville est incroyable. Les bâtisses, les maisons, les chênes. Il y a sur les grandes avenues, il y a des chênes qui c'est les baobabs, quoi. Et c'est énorme, mais ils sont magnifiques, mais ils sont là depuis des centaines d'années. Le revers de médaille, c'est que si on va dans les quartiers peut-être un peu plus pauvres, chaque sixième maison n'est pas encore retapée depuis Katrina, quoi. Donc le marque de Katrina est toujours très très présent, en sachant que avant Katrina il y avait 750 000 habitants, et là ça commence à remonter, mais c'est à 350 000 ou un truc comme ça. Donc c'est une ville qui porte vraiment les séquelles. Donc il y a aussi les odeurs, la température, l'humidité, tout te met un peu hors de toi. Et c'était bien pour ce disque. Moi, je suis allé 4 mois avant pour rencontrer les musiciens, pour voir un peu les studios. Et je me suis dit, ça va être bien d'être hors de chez moi, d'être inspiré par cet endroit, par ces gens, par l'accent. Par comment il parle, de quoi il parle. Il y a des chansons qui parlent vraiment de rencontres que j'ai fait pendant que j'étais là-bas. Donc je trouve que c'était très bien c'est un osmose qui m'est arrivé là-bas. Je cherchais pas forcément les influences, mais ils sont venus à moi, quoi.
Une musique qui mobilise les 5 sens, un parfum de Nouvelle-Orléans que vous nous retranscrivez avec votre brass band, Hugh Coltman, dans cet album Who is Happy. Joyeux, tout n'est pas joyeux à l'intérieur, mais c'est un album qui questionne aussi notre état, nos humeurs, intuitif le vôtre également, Raphaël Imbert. C'est un album que vous avez souhaité aussi comme une forme de célébration à l'engagement politique et artistique. L'un peut-être ne va pas sans l'autre, notamment à travers une figure tutélaire qui plane sur ce nouvel album, le vôtre, celle de Paul Robeson, acteur, chanteur et militant communiste, revendiqué envers et contre tous, poursuivi pendant le maccartisme. Pourquoi lui ? Comment cette conscience politique s'est infiltrée dans votre répertoire, Raphaël Imbert ?
Y a deux facteurs. D'abord, quand j'ai travaillé sur Jazz Suprême, le livre donc qui est paru en 2014, qui est un travail sur le spirituel dans le jazz, et aussi pour évoquer l'imaginaire politique des musiciens qui me plaisait, mais un imaginaire politique qui, comme tout aux États-Unis, va avec le religieux, le spirituel. Il y a toujours une collusion entre les deux. Et là, je découvre dans toutes les interviews l'artiste, la figure la plus citée comme étant l'exemple à suivre, c'est Paul Robeson. C'est cité par Dizzy Gillespie, c'est cité par Albert Heller, c'est cité par tout le monde en fait. Et malgré le fait qu'il était justement, comme vous l'avez dit, blackboulé, blacklisté vis-à-vis du gouvernement durant toute la suite de la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'était une star immense, c'est une star du sport, ce qui déjà me force l'admiration pour moi d'un musicien qui est aussi un grand sportif, c'est assez rare, une star du cinéma. C'est un des premiers, c'est même la première grande star hollywoodienne afro-américaine, et qui est un militant communiste convaincu, qui a d'ailleurs une révélation vis-à-vis de ça au moment de la guerre d'Espagne, au moment où il va aider, chanter pour les républicains. C'est quand même une figure assez incroyable. Et la deuxième chose, c'est que je découvre ça à un moment où dans notre propre histoire et dans notre époque contemporaine, ces questions reviennent finalement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, moi je suis d'une génération, on a beaucoup dit, voilà, on va pas se mêler de politique, hein, on fait de la musique, on est là pour ça, chacun son boulot. Et là, ça nous revient un petit peu à la figure de façon terrifiante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait face à tous les événements et tous les nouveaux événements qui arrivent et qui sont des événements aussi culturels. Donc on doit quand même réagir d'une manière ou d'une autre.
Est-ce qu'on tient bon ou pas ? Est-ce qu'une musique peut d'ailleurs redonner de l'espoir ? C'est une musique qui se dresse contre ou qui nous rassemble autour, la vôtre, Raphaël Imbert, à vos yeux ?
Moi, j'essaye plutôt d'être dans la deuxième option. Et ce qui est assez frappant chez Paul Robeson, c'est ça justement. C'est-à-dire que le discours, lui, était très très militant, très revendicatif. On sait même, il a reçu, alors c'est une phrase assez étonnante, il a reçu le prix Staline pour la paix. Alors Staline pour la paix, déjà, c'est un truc. Et il a toujours, il a jamais accepté de renoncer à ce lien-là. Il est jusqu'à sa mort en 76, il a refusé de renier cet engagement-là. Ce qui était à la fois très courageux et montre aussi un certain aveuglement dans lequel on peut tomber. Donc le rassemblement, grâce à la musique, il est présent dans sa musique. C'est pas pour rien qu'il joue les Negro Spiritual et qu'il les gens, il les joue et les chante comme des œuvres de rassemblement, plutôt que de chanter contre. Voilà. C'est quand même finalement l'effet militant dans la musique est beaucoup plus rassembleur que n'est le discours.
Et l'album s'ouvre sur le monologue d'Othello de Shakespeare dans sa voix, enregistré au Carnegie Hall en 58, suivi d'un hymne antifasciste, Pit Box Soldiers, interprété ici par Aurore Humbert et Marion Rampal.
Soft, you! A word or two before you go. I have done the state some service, and they know it. No more of that. I pray you in your letters, when you shall these unlucky deeds relate, speak of me as I am. Nothing extenuate, nor set down aught in malice. Then must you speak of one that loved full wisely, but too well. Of one not easily jealous, but being wrought, perplexed in the extreme. One whose subdued eyes, all being unused to the melting, drop tears as fast as the Arabian trees, their medicinable cotton. Set you down this, and say besides, that in Aleppo once, where a malignant and a turbaned Turk beat a Venetian and traduced the state, I took by the throat the damned heathen dog and smote him thus.
Far and wide as the eye can wander, heath and bog are everywhere. Not a bird sings out to cheer us. Oaks are
l'une des figures mobilisées dans votre nouvel album, Raphaël Humbert. Il y en a d'autres, il n'est pas le seul. On peut citer aussi Turn, Turn, Turn sur des paroles tirées de l'Ecclésiaste. Vous y convoquez la figure de Pete Seeger, artisan des droits civiques, engagé aux côtés des Afro-Américains dans ce combat contre le racisme. C'était un musicien blanc, lui, américain, pionnier de la musique folk, et que l'on retrouve donc aussi dans cet album. Hugh Coltman, pour vous, quel est l'archétype de l'artiste engagé aujourd'hui?
En fait, je te rejoins. Je trouve que quelque part, dans les années 60, ça devenait une mode d'avoir un engagement politique. Et donc, dès qu'une chose devient la mode, ça peut devenir démodé. Et je trouve que dans les années 70, même 80, surtout en Angleterre, on avait, par Billy Bragg ou peut-être les Clash, dans le mouvement punk, il y avait, tout le monde s'est distancé beaucoup, beaucoup de l'engagement politique dans la musique. c'était un peu revenir de, comme vous disiez tout à l'heure, dans les années 50, où un chanteur était là pour divertir, entertainment. Aujourd'hui, je trouve que les gens se sont plus en plus impliqués dans ce qui se passe. Il y a plus de chanteurs ou de musiciens engagés en Angleterre, alors que c'est toujours pas beaucoup. En France, je trouve que ça a toujours un peu existé quand même. Je trouve qu'il y a cet engagement dans la politique qui passe par la musique qui a toujours été assez présent. J'ai trouvé ça assez surprenant quand je suis arrivé ici d'ailleurs. J'espère justement que les gens vont prendre plus de parole contre ces mouvements populistes qui arrivent de tous les côtés, parce que c'est quelqu'un, comme disait Nina Simone, c'est le devoir d'un artiste de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, quoi.
C'est la question de l'inspiration aussi. Vous écrivez, Raphaël Imbert, dans cet album, Une lettre à la muse. Quelle est votre muse à vous, votre source d'inspiration à vous? Vous êtes capable de la dessiner aujourd'hui?
Je suis capable de la nommer. Elle s'appelle Annabelle. Elle m'écoute sans doute maintenant, d'une part. Et puis c'est un album qui justement, l'inspiration est très liée à cet engagement-là, ou à cet non-engagement. Et ce que disait Hugues était intéressant, c'est-à-dire qu'en Angleterre, peut-être qu'il y a eu ce détournement de la tension politique. En France, elle a toujours été là, mais elle est devenue presque... Justement, elle est presque devenue habituelle, donc d'une certaine manière, quand elle est toujours là, elle devient presque invisible. Et moi, j'étais frappé, j'ai joué à New York en janvier 2016, quelques temps après l'investiture de Trump, et on sentait bien que nous on venait avec Music Is My Home, mais avec déjà un discours un peu politique, on parlait de Robson dans notre concert et tout ça, et on sentait une attention de la part du public new-yorkais qui était très forte par rapport à ça, et finalement on voyait tous les musiciens que je connaissais moi de New York qui étaient assez frileux par rapport à ça, qui d'un coup se sont emparés de la chose. Et d'ailleurs la dernière nouvelle qui est pour moi déterminante, c'est d'apprendre hier, je crois, que Kendrick Lamar a eu le prix Pulitzer. C'est le premier rappeur, artiste de rap, qui a le prix Pulitzer aux États-Unis, et c'est très signifiant par rapport au retour d'un engagement, d'un investissement artistique dans le champ politique.
Quand vous étiez aux États-Unis, Hugh Coltman, vous êtes donc allé chercher aux racines, à la source de la culture afro-américaine, mais vous avez aussi puisé dans l'air du temps, et ce temps, il est aussi trumpien, comme vous le dites, l'un et l'autre. Extrait de votre titre, Sugar Coated Pill, Hugh Coltman.
In this town, gotta work so hard. Put breakfast on the table and gas in the car. She's working at the food mart till after two. The kids watch too much TV, but what you gonna do? And the guy on his phone, he talks so loud. It's an oratory man, he ain't proud. Mortgage payments tripled and subprimes hit. He's always been in a job, but now that don't mean shit. Well, the sugar-coated pill, sugar-coated pill. Take one every morning to cure your ills. Well, the sugar-coated pill, sugar-coated pill. Sugar don't get you there. The pill sure will.
Explication de texte avec vous, Hugh Coltman, sur ce titre.
J'ai écrit ce titre quand je suis allé avant d'aller pour enregistrer, c'est-à-dire 4 mois avant. Et c'est des personnages que j'ai pu rencontrer là-bas, dans l'Amérique post-Trump. C'était de voir. Un dimanche après-midi, je regarde dans le ciel et vous savez, il y a les avions qui écrivent dans le ciel avec le fumée. Skywriters, ils appellent ça. Et il y avait un qui écrivait « I love God ». Pourquoi pas? Mais c'est juste God et le pays, elle est intrinsèquement attachée. Et c'était aussi ce côté où je me suis dit « Mais il est allé chercher les gens ». Qui sont en souffrance. Et il leur a dit, bah, votez pour moi parce que ça ira mieux. Mais en fait, c'est eux qui vont vraiment être touchés le plus par ce qu'il est en train de faire. Par les trade wars qu'il vient de lancer avec le 25% qu'il a rajouté sur l'aluminium et le fer qui vient de Chine. Bah, la Chine répond avec 1300 produits avec 25% dessus. Donc du coup, c'est vraiment l'agriculture, les gens qui travaillent dans le fer, etc., qui vont être le plus touchés, quoi.
Voilà, Hugh Kaufmann, d'origine britannique, installé en France avec sa part américaine désormais. Prendre son destin en main, tu as les cartes en main, à toi de les jouer correctement. C'est le guitariste et chanteur de Caroline du Nord, Big Ron Hunter, présent déjà sur votre précédent album, Raphaël Imbert, qui ferme celui-ci avec Play Your Cards Right, et qui vous donne aussi, et qui nous donne une leçon d'optimisme sur la vie, ce cycle de la vie que vous racontez à travers cette reprise de Joni Mitchell aussi, The Circle Game, cette chanson qui aide à se relever, à se nourrir de ses échecs, où vous nous montrez à quel point la vie est un manège. À propos de Dieu, puisque à l'instant Hugh Kaufmann l'évoquait, il n'y a pas de frontière pour vous entre le sacré et le profane. Est-ce qu'une prière est toujours une forme de contestation, une protestation de l'âme ?
Le jazz tel qu'il s'est créé, pour moi, c'est justement une manière d'abolir cette frontière-là. C'est-à-dire que très clairement, vous ouvrez un livre d'histoire du jazz, on vous raconte, à juste titre, mais c'est très réducteur, que le jazz est né dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. Il est né aussi dans les églises, il est né dans les temples, il est né dans la rue, il est né partout en fait en même temps, et il est né d'une intention spirituelle qui n'est pas que liée, même si c'est très lié, au gospel, au néo-spirituel, à ce qu'on appelle communément et musicologiquement la musique sacrée afro-américaine. C'est-à-dire que des musiciens, je pense à Jerry Roll Morton, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington plus tard et évidemment John Coltrane après, sont des musiciens qui ont grandi dans un contexte qu'on va considérer anthropologiquement comme profane et qui sont pourtant soit des mystiques, des métaphysiciens dans certains cas et des gens d'une spiritualité extrêmement profonde. Donc aux États-Unis particulièrement, c'est ça qui est intéressant, on a nous ce regard français sur le côté très réactionnaire, notamment en ce moment c'est quand même très frappant avec Trump, réactionnaire de la place de la religion dans le pays, et malgré tout, tous ces grands mouvements des droits civiques, toutes les idées de progrès aux États-Unis ont aussi été portées par des mouvements qui sont des mouvements religieux mais progressistes. C'est un petit peu aussi ça que je voulais montrer quand vous parlez de Pete Seeger par exemple. C'est quand même lui qui allait retrouver dans les archives We Shall Overcome, qui était le chant de lutte, de marche de Martin Luther King et de tous les manifestants. Et c'est un gospel, c'est quelque chose qui est éminemment religieux. L'un ne va pas sans l'autre. Et plutôt que de contourner
bah comme les enregistrements d'Alan Lomax aussi.
Ah, exactement, quoi. Tout à fait. Voilà, Alan Lomax qui allait chercher et puis dans la musique populaire américaine, il y a cette ambivalence qui est là.
Raphaël Imbert, vous qui théorisez aussi, il y a un concept qui a traversé l'Atlantique et qui est aussi repris en ce moment en France, c'est celui d'appropriation culturelle. Mais là, on pense plutôt à des détournements d'un patrimoine musical, soit à des fins commerciales, soit de manière très superficielle, des symboles aussi qui ont été importants. Est-ce que néanmoins, c'est pas étonnant d'avoir là, autour de cette table, deux passionnés de blues, de jazz, blancs, qui vont aller puiser dans ce patrimoine de la communauté noire? Comment expliquer aussi, est-ce que ça c'est pas une tendance nouvelle d'aller où vous y voyez un simple métissage?
Bah, il y a une histoire intéressante, dans les années 60, il y a un saxophoniste, tromboniste pardon, anglais qui s'appelle Chris Barber, qui était fou de la musique de Nouvelle-Orléans, ragtime, etc., etc. Et puis il a entendu ces disques de blues et il s'est dit, mais comment est-ce qu'ils font ça? Ils essayaient de le jouer, ils n'arrivaient pas. Donc comment son groupe marchait plutôt bien, c'était lui le premier, avec son propre argent, à faire venir ses artistes, c'est-à-dire Sister Rosetta Tharpe, ou Muddy Waters, ou plein d'autres, de faire venir en Angleterre. Et je trouve qu'il y a une envie de découvrir ce que c'est cette pouvoir dans cette musique. Et j'utilise vraiment le mot pouvoir parce que... Moi, quand j'ai commencé à écouter cette musique-là, moi, toujours derrière, j'ai le poil qui hérisse et j'ai envie de piocher, quoi.
L'un est venu avec sa voix du midi, l'autre avec son saxophone. Ils n'ont rien préparé, ça va être de l'improvisation totale, mais ils ont accepté de se prêter au jeu et on va voir ce que ça donne. Okay. Qui donne le ton?
Get out my life, I want. Ouais, donne-moi la. Ok.
Get out my life, woman. You don't love me no more. Well, get out my life, woman. You don't love me no more. Yeah. I said, get out my life, baby. You don't love me no more. Well, get out my life, teardrops. I got to see my way around. Well, get out my life, teardrops. I got to see my way around. Get out my life, heartbreak. Nothing but heartbreak to the pound. To climb way to the top.
Je ne contrôle plus rien. Merci beaucoup. Bravo. Mille merci. C'était totalement imprévisé. Merci beaucoup à Jacques Ezubert aussi, à la technique, qui a lui aussi improviser ce mixage en direct. Music is my hope de Raphaël Imbert, nouvel album sorti en janvier, une tournée qui commencera à la fin du mois jusqu'au 27 juillet. Who's Happy de Hugh Coltman, album qui vient de sortir, c'était le 2 mars dernier et déjà dans les bacs. Il est en tournée en France jusqu'au 30 juin. Merci mille fois messieurs d'être passés autour de cette grande table.
Merci beaucoup.
Merci à vous.